nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Les photos de Yann Arthus-Bertrand, La Terre vue du ciel, ont fait le tour du monde. L'ouvrage de ce long travail photographique a été vendu à 2 millions d'exemplaires et l'exposition itinérante qui l'accompagne a été vue, selon les estimations, par près de 10 millions de personnes dans près de 40 villes dans le monde. Depuis, avec son agence Altitude et sa fondation Good Planet, il s'est lancé dans de nouvelles aventures. Il y a eu le film Home et l'aventure de 7 milliards d'autres, une exposition de photographies et de vidéos d'interviews réalisées par ses équipes à travers le monde. On connaît son engagement en faveur de l'écologie et du développement durable. Il continue à parcourir la planète avec à son actif des dizaines de milliers de photographies. Il revient de la conférence de Rio+20 organisée par les Nations Unies qui s'est déroulée en juin dernier, où il a présenté son dernier film en avant-première, Planète Océan. Cette année, le sommet de Rio+20 avait pour thème le développement durable. Or, le mot est apparu il y a 20 ans à Rio, justement, lors de la conférence qui s'est déroulée en 1992 et qui a marqué les esprits. L'opinion publique mondiale découvrait la notion, le concept de développement durable. 20 ans après, le sommet a justement pour thème, à nouveau, le développement durable. L'occasion de tirer un bilan avec Yann Arthus-Bertrand qui publie justement un nouvel ouvrage avec sa fondation Good Planet aux éditions La Martinière et intitulé « 20 ans après, trois petits points de suspension, la Terre, point d'interrogation ». Yann Arthus-Bertrand, que vous rappelez-vous de ce sommet de Rio il y a 20 ans et est-ce que vous y étiez ?
J'ai commencé ce travail de la Terre vue du ciel à l'occasion de la première conférence de Rio, mais je n'y étais pas. C'est en lisant le journal Le Monde, en parlant de... C'est vrai que c'est la première fois qu'on parlait de développement durable, de réchauffement climatique, où on parlait très très peu de réchauffement climatique d'ailleurs, mais surtout de déforestation, de problèmes d'eau, de population, de... des gaz à effet de serre un petit peu, mais plus, vous savez, le gaz qu'il y avait dans les... des petites bombes, là, les bombes des insecticides, que du CO2, des énergies fossiles, voilà. C'est le trou d'ozone à cette époque-là.
Voilà, c'était ça la grande préoccupation et la découverte du mot de développement durable. Effectivement, on ne savait pas trop s'il fallait garder l'expression anglaise, c'était encore très flou tout ça. Pour vous, vous dites que ça a été le déclic du travail que vous avez entrepris avec La Terre vue du ciel.
Oui, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait l'an 2000 qui arrivait. C'est un peu toujours des dates comme ça qu'on attend, l'anniversaire de 1789, le ciel, on changeait de siècle. On avait l'impression que c'était important. Et puis c'est vrai que l'an 2000, c'est une date, quoi. Et j'ai voulu faire un travail de photographe à ce moment-là. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un grand travail sur la Terre que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Bien sûr, c'est un projet qui m'a dépassé et qui m'a transformé. Mais c'est vraiment à ce moment-là, à Rio, que j'ai décidé, du moins au moment de la conférence de Rio, j'ai décidé de faire ce grand travail qui a véritablement changé ma vie. Pour voir ce que c'était Rio à cette époque-là, tous les chefs d'État qui viennent parler au Brésil. Pourquoi au Brésil ? Parce qu'on parlait beaucoup de déforestation, beaucoup d'optimisme. On pensait à ce moment-là que justement les Nations Unies allaient pouvoir régler les problèmes du monde comme les Nations Unies arrivent à régler les problèmes de guerre. Quand même, voilà, on envoie les casques bleus. Donc on s'est dit, on va faire la même chose avec l'écologie. C'est l'époque où Cousteau disait, pour moi, il n'y a aucun problème, on aura résolu les problèmes de gaz à effet de serre en l'an 2000. Et on sait bien qu'aujourd'hui, on émet aujourd'hui 40% de plus de gaz à effet de serre qu'au moment de Rio. Donc c'est le contraire qui se passe.
Il y avait quand même l'idée que la science allait résoudre nos problèmes. Et assez vite.
C'est une erreur. La science ne résoudra rien du tout sur des problèmes majeurs d'épuisement des ressources et du changement climatique. On le sait bien, on le voit bien.
Quelles sont vos impressions sur Rio+20 ? Qu'est-ce qui a changé en 20 ans d'après vous ? Et qu'est-ce qui a changé pour vous à travers ou dans votre travail photographique depuis ce moment-là ?
D'abord, ce qui a changé pour Rio, parce que j'arrive de Rio+20, c'est qu'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est surtout pas les grandes messes comme ça de politiques qui vont changer le monde. Aujourd'hui, on n'est pas dirigé par des leaders, mais par des politiciens qui n'ont aucune vision électorale. Tant qu'on n'aura pas devant nous des leaders, des gens qui vont nous emmener, qui parlent d'honnêteté, d'intégrité, d'ouvrir les yeux, qui parlent de morale et d'éthique, alors qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de développement, on a peur de fermer les usines, c'est normal, on a peur de perdre son emploi, mais aujourd'hui, on est devant un problème bien plus compliqué à résoudre que ça, et c'est un problème qu'on va résoudre tous ensemble. Et donc, tant que les hommes politiques ne se sentent pas avoir le mandat de leurs électeurs pour changer le monde, ils seront incapables de prendre des décisions difficiles et courageuses. Donc, ça a été un peu la preuve, on savait après Copenhague, qu'aujourd'hui, il n'y aura plus jamais de grande masse comme il y a eu à Rio. C'est la dernière qu'on verra, je pense, au monde, en tout cas sur ces problèmes-là, parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'on touche à la croissance, et la croissance, voilà, ce n'est pas les hommes politiques qui la décident.
Il n'y a pas la fusion entre les réunions des chefs d'État, les impulsions politiques qui pourraient être données, et puis la réunion des ONG, de tout le milieu, disons.
Les ONG ne représentent rien du tout.
Oui.
Aujourd'hui, dans les dernières élections présidentielles, l'écologie, c'est 2% de... Bon, on est dans une écologie politique qui n'est pas mon écologie et qui certainement fait peur à tout le monde. Mais quand même, la conscience écologique... Moi, j'ai par exemple toujours voté vert. J'ai trouvé que la campagne d'Eva Joly était lamentable. Mais j'ai quand même voté vert par conscience, comme disant, voilà, je ne peux pas faire autrement. Et bon, on n'est pas beaucoup à faire ça. On est 2%, donc on n'a pas un grand poids sur l'opinion publique ou même sur les politiques. Alors, pourquoi ça m'a transformé d'abord? Quand on part sur un grand travail sur la Terre vue du ciel, ce qui m'a le plus marqué dans ce travail, c'est que la Terre est toujours une œuvre d'art. La Terre, c'est magnifique. Il n'y a rien de plus fort que la nature. Je pense que les artistes essayent désespérément de reproduire la nature et ils le font bien, mais pas avec l'ampleur et pas avec l'émotion que peut apporter pour moi la nature. Il n'y a rien de plus beau pour moi qu'un chêne dans un champ. Il n'y a rien de plus beau pour moi qu'un lion qui court dans la savane ou d'un cheval qui court dans un champ. Voilà. Première neige qui tombe, un arc-en-ciel, c'est quand même des choses qui nous dépassent un petit peu. Et je pense que l'homme, peut-être le seul animal qui a conscience de cette beauté, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais en tout cas, cette notion de beauté, on le voit bien, moi, quand j'expose dans le monde entier, comme qu'on soit à Kaboul ou qu'on soit à New York, les gens aiment les mêmes choses.
Oui, donc, c'est assez surprenant, le succès des expositions, d'ailleurs, voilà, pas pour
la beauté du monde, c'est quelque chose qui m'a extrêmement touché. L'impact de l'homme sur la Terre, ça m'a marqué. Quand je suis né, on était 2 milliards et demi, un peu moins de 2 milliards et demi. À Rio, il y a 20 ans, on était 5 milliards 4. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Il y a une espèce d'extrapolation. Ça va à une vitesse invraisemblable et ça se voit vu du ciel, ça va vite. Les villes s'agrandissent, il y a de plus en plus de gens qui bougent, de plus en plus de routes. C'est impressionnant vu du ciel. Là, j'arrive de Chine et ça m'a encore plus impressionné. Ce qui m'a impressionné encore et qui m'a marqué, les scientifiques. Quand on fait un travail comme le mien, l'émotion amenée par la beauté de la Terre, c'est important, mais j'aime aussi amener des légendes, c'est de comprendre ce que je photographie et faire un peu plus. C'est vrai que quand on parle aux scientifiques, tous les chiffres sur l'écologie sont très mauvais. Alors, il y a des chiffres meilleurs, éducation, on vit plus vieux, il y a moins de mortalité infantile, il y a plus de démocratie, il y a des choses qui sont bonnes, on ne va pas vers des catastrophes en permanence, mais quand même, sur le problème de l'eau, sur la biodiversité, sur... Voilà, tout ça, les chiffres sont mauvais parce qu'on est 7 milliards et qu'on consomme la Terre. C'est facile à comprendre. Et on en a besoin pour vivre. Le travail des ONG sur le terrain. J'ai rencontré des milliers de personnes qui travaillaient par les ONG. Je pense que les gens qui font, qui donnent de l'amour, qui s'occupent des autres, bah, ils ont dans le regard un truc en plus. Et que je pense que la solution à nos problèmes passera par l'aide, par l'empathie. C'est important. Voilà, moi, je pense que d'aimer les autres, de s'aimer soi-même, d'avoir un regard sur la planète avec moins de cynisme, de scepticisme et plus de bonté. C'est un peu nunuche que dit, mais c'est ce que je pense sincèrement. Ça m'a marqué, le travail des ONG. Moi, je veux faire partie de cette famille. Je trouve que les gens qui aident ont un truc de les yeux un peu plus que les autres. C'est ce qui m'intéresse. Et puis peut-être ce qui m'a marqué le plus, c'est que dans le monde, on est 7 milliards d'habitants. Et il y en a presque un peu plus de 2 milliards qui sont ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Ce sont les gens qui travaillent la terre à la main et leur seule ambition, c'est de nourrir leur famille. Eh bien, ces gens-là, ils ont une ambition très différente de la mienne et ils sont largement aussi intelligents que moi. Ils ont énormément de choses à m'apprendre, mais surtout, ce sont les premières personnes qui vont souffrir du changement climatique parce que l'agriculture dépend énormément des climats. Le climat est en train de changer en ce moment et il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Et j'en ai rencontré. Alors, après avoir compris tout ça ou avoir ressenti tout ça, je pense que je suis devenu non pas coupable de ma façon de vivre, mais plus responsable. Une grosse différence entre la culpabilité et la responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers mon travail, j'essaye de faire prendre conscience de notre responsabilité collective et savoir que chacun aussi, dans son coin, tout seul, en tant que personne, individu, peut, à sa façon, avoir ce regard sur le monde plus généreux. Et c'est de l'éthique et de la morale, en fin de compte. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous être imposé. Avoir la conscience de ce qui est en train d'arriver, c'est important. Et notre travail ici à la Fondation, c'est d'amener plus de conscience dans le cœur, tout simplement. C'est important, au cœur de nos consciences, d'amener l'écologie. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à accepter, pas facile à comprendre, parce que notre civilisation entière est basée sur l'échange, sur le commerce, et aujourd'hui, sur l'épuisement des ressources. Et nous sommes, les 2 milliards d'habitants qui vivons comme nous, des modèles. Et tout le monde veut vivre comme nous. Alors comment faut faire? On ne peut pas dire aux autres, faites pas comme nous, si nous, on n'est pas capable, nous d'abord, de changer. Et on l'a bien vu à Rio, pour venir à Rio plus 20, les BRICS, c'est-à-dire les pays en voie de développement, Brésil, Chine, Inde, plus l'Afrique et même l'Amérique, il n'était pas question de négocier quelque chose qui allait contre la croissance. Et d'aller contre la croissance aujourd'hui, ce n'est pas politiquement correct. Et quelque part, et je suis persuadé qu'il faut qu'on apprenne à vivre mieux avec moins. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut nous imposer. C'est nous tout seuls. C'est très personnel, ça. Ce n'est pas quelque chose... Ça va nous être imposé. Hein. La fin du pétrole va nous imposer ces choses-là. Que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, mais ça va arriver. Ou un pétrole, du moins pas la fin du pétrole, mais un pétrole beaucoup plus cher. Et je pense qu'on ne s'y prépare absolument pas et qu'on vit dans un déni collectif. C'est-à-dire qu'on ne veut pas croire ce que l'on sait. Tout ce
Alors,
qu'on dit dans mes films...
Il y a une prise de conscience. Oui. Il y a un déni et il faudrait un nouveau modèle économique et on n'en est pas encore à échafauder un tel modèle.
Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Moi, je suis un journaliste, un photographe, un cinéaste. J'adore mon métier, qui est un métier formidable de rencontrer des gens, de filmer les beaux endroits du monde et ceux qui sont un peu plus abîmés. Mais j'aime ce métier, que je suis quelqu'un de curieux. Mais je ne suis pas un donneur de leçons. Aujourd'hui, je me rends bien compte que la route qu'on prend va être compliquée. Moi, en tout cas, moi, j'essaie dans ma vie de prendre une autre route. Et j'aimerais bien que d'autres le fassent avec moi, parce qu'on aime convaincre. Et puis aussi, il faut aimer l'époque dans laquelle on vit, c'est-à-dire que aimer son siècle. Le monde va être compliqué, le monde est difficile, mais quand même, on vit encore très bien. On a à manger.
On vit en paix dans certaines parties
voilà,
du
voilà.
monde.
Voilà, voilà. Il n'y a rien de plus important que ça. Mais ce qui est devant nous est compliqué. Voilà, il faut l'accepter. Et est-ce qu'on est assez grand pour voir la vérité en face?
Le projet de 7 milliards d'autres est une aventure assez touchante. Depuis 2003, des reporters de votre fondation ont filmé et ont récolté des témoignages d'à peu près 6000 personnes dans 84 pays. Cette aventure continue et vous venez de publier aux éditions La Martinière un ouvrage intitulé justement 7 milliards d'autres qui présente une partie, une sélection de ces vidéos, de ces interviews. Ce travail est également accompagné d'une grande exposition itinérante dont on a vu la première au Grand Palais. À travers ce projet, on voit combien les femmes d'aujourd'hui, et les femmes un petit peu partout, et surtout dans les pays en développement, attachent une importance primordiale à l'éducation. C'est un thème, une thématique qui est aussi importante pour votre fondation et dans vos engagements.
Il n'y a pas d'avenir si on ne sait pas lire ou écrire. Les gens le se rendent bien compte, et on n'a pas la connaissance du monde. Et dans un monde qui est extrêmement compliqué, comme aujourd'hui, où on a besoin de s'informer, où la télévision, l'Internet va partout, si on ne sait pas lire ou écrire, ça devient difficile. Il y a une femme qui le dit très justement, savoir lire et écrire, c'est la lumière dans ma vie. Quoi. Si on ne sait pas lire ou écrire, on vit dans le noir.
Voilà. Ponam vit à Delhi en Inde, elle dit « L'éducation est très importante dans la vie, si tu n'es pas éduqué, ça ne sert à rien de vivre. » C'est quand même très fort. Mmh. Bon, ce sont des témoignages qui sont poignants sur...
Et pourtant, c'est très basique ce qu'ils disent. Hein. C'est,
oui, mais ça
c'est
fait rien.
C'est le vieux quotidien.
C'est étonnant d'avoir été pioché comme ça, d'avoir donné la parole à des gens qui ne l'ont pas forcément, qui l'ont prise là. Ça vous a touché que les gens répondent à ce projet?
Non, mais ce projet, je l'ai inventé un jour. Je suis tombé en panne d'hélicoptère au Mali et j'ai passé 2 jours à discuter avec un fermier dans un petit village. Et c'est des gens qui n'avaient rien du tout, qui étaient... Et j'ai passé 2 jours avec eux, et ces gens m'ont tout donné, c'est-à-dire qu'ils ont tué une chèvre pour moi, ils m'ont expliqué leur vie, j'ai dormi chez eux, puis on a parlé, et ils m'ont tout donné, alors qu'ils n'avaient rien, une vieille cantine avec un Coran et quelques bijoux. Et tout ce que j'ai appris pendant ces 2 jours était très important, parce que justement, c'est ces fameux agriculteurs de subsistance. Parce que même si on sait qu'ils existent, même si on les voit, de parler 48 heures avec eux, et d'être curieux, demander comment ils vivent, ils trouvaient qu'ils parlaient français, c'était quand même assez facile. Donc ça m'a passionné. Et la façon dont il m'a raconté l'angoisse qu'il avait quand la pluie n'arrivait pas, qu'il n'avait pas à nourrir sa famille. Moi, j'imagine ne pas pouvoir nourrir mes enfants, par exemple, en tant que père, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça m'avait tellement marqué, ce qu'il m'avait dit, et tellement rendu moins con, on peut dire, quelque part, que j'ai eu envie de faire ce travail Je me suis dit, après le travail de la Terre vue du ciel, j'irai photographier les gens qui vivaient dans mes photos et je leur demanderai à tous leur âge, leur métier, ce qu'ils gagnent, ce qu'ils ont envie. Bon. Et en fin de compte, la Terre vue du ciel nous a dépassés. Le succès de la Terre vue du ciel est devenu un truc énorme que j'étais embarqué dans à continuer à voler, à faire de la télé, du cinéma et à continuer à voler surtout. Donc j'ai engagé à travers la Fondation une équipe qui est partie autour du monde à poser à tout le monde les mêmes questions. Ils ont fait 6000 interviews, ce qui est énorme, 6000 interviews d'une heure qui ont été dérochées, traduites, stockées. Et on a sorti de là-dedans une 25 heures formidable et on continue à tourner.
Oui,
on
ça continue. Le projet échappe au bout d'un moment et il se transforme.
Non, mais il continue. On vient de faire un grand sujet sur le développement. On a été dans 17 pays en voie de développement et on a parlé de pauvreté, santé, éducation et droits des femmes. Et c'est magnifique ce que les gens disent. Quoi. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que la richesse? Des gens qui n'ont rien et qui se sentent riches parce qu'ils ont l'impression, ils ont de quoi manger, ils ont un travail et ça leur suffit en fin de compte quelque part. Et nous, on veut toujours plus. Eux aussi, ils veulent plus. Mais ils ont cette intelligence, cet instinct de reconnaître que ce qu'ils ont leur suffit. Et nous, on est incapable de le comprendre, ça. On veut toujours avoir plus. Moi, j'ai beaucoup aussi, hein. Donc il y a des gens qui ont beaucoup moins que moi. Donc ça n'engage que moi, ce que je dis. 6 milliards d'autres, c'est un projet magnifique qui va de musée en musée. La dernière exposition, elle était, je crois, à Moscou. Et là, on en ouvre une, je crois, en Lisbonne. Et on l'a présentée à Rio, on a fait dans le cinéma, on a fait 5 heures de projection. C'est très addictif, ça. Quand on commence à regarder, on a du mal de s'arrêter. L'exposition 7 milliards d'autres, quand elle était au Grand Palais à Paris, normalement, dans une expo, les gens, ils restent en moyenne en France 1h15. Chez nous, ils restaient en moyenne 3h45. Ce qui montre bien l'intérêt incroyable. Parce que je ne sais pas, c'est une exposition artistique. Par contre, c'est vous qui parlez. Tous ces gens-là, c'est toi qui parles. C'est-à-dire qu'ils parlent de leurs problèmes, mais c'est des choses qu'on pourrait avoir nous. Donc c'est un peu un miroir, cette exposition. Et c'est fascinant. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Quel est l'événement le plus dur qui vous est arrivé dans votre vie?
C'est toujours la même question posée à chacun.
Quel est l'événement le plus dur qui vous est arrivé dans votre vie et qu'est-ce que vous en avez appris? Ben, essayez de réfléchir à ça et puis vous allez voir que ce n'est pas forcément rigolo de le dire devant une caméra, et tout le monde comprend ce que vous voulez dire, et tout le monde comprend la peine que vous avez en en parlant.
Et vous, vous êtes soumis à ça,
C'était difficile pour moi de me soumettre, parce qu'on l'a fait par petits morceaux, on m'a souvent posé des questions, mais moi, le problème, c'est un peu aller chez un psy. Quand on va chez un psy, ça ne doit pas être quelqu'un de chez toi qui te connaît, parce que ce que tu dis est très intime, et je pense que le secret de 7 milliards, c'est que d'aller devant une caméra et d'expliquer sa vie à des gens que tu ne vas jamais revoir, c'est facile. De parler que ton mari
c'est
te bat,
facile.
Que
ouais,
tu es déçu par ton fils,
voilà. Des choses terribles.
Ou des choses aussi formidables,
mort,
voilà.
Sur la guerre.
Voilà, voilà. Et l'angoisse du lendemain, l'angoisse de vivre, on le sent dans beaucoup de gens qui peuvent avoir tout. C'est drôle parce que souvent, les gens, on a été riches, ils disent le bonheur n'existe pas, alors que si on est dans le désert, ben, le bonheur c'est d'avoir de l'eau, si les Maasai c'est d'avoir une vache, que le bonheur est beaucoup plus simple. Nous, on essaye d'avoir un bonheur, de trouver quelque chose, de mettre quelque chose en plus que le bonheur, le mot simple.
Après vous être intéressé à l'état de la planète, puis à celui de l'humanité, c'est l'état des océans qui vous intéresse à travers votre dernier film Planète Océan, présenté justement en avant-première à Rio.
Alors, d'abord, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la planète, c'est la vie sur la Terre. La planète, elle va continuer à tourner avec ou sans nous, elle l'a fait sans nous. L'homme est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans c'est l'homme qui dirige le monde, ou du moins qui a le plus gros impact sur la vie sur Terre. Je ne pense pas qu'il dirige tant que ça. Enfin bon, ce n'est pas la planète, c'est la vie sur Terre. Et donc, la vie sur Terre, l'homme en fait partie. Donc, quelque part, d'être écolo et s'intéresser aux gens, je pense que c'est évident. C'est peut-être ce qu'a oublié l'écologie politique, c'est qu'il faut aimer un peu plus les gens pour essayer de les convaincre. Et on ne peut pas être un écolo, vrai, je pense, si on n'aime pas les gens, voilà, si on n'aime pas les autres. Parce que ça fait partie de notre monde. Alors, les océans, ça a été une demande d'une marque qui s'appelle Omega, qui nous a demandé de faire un film sur les océans. Au départ, ça, j'avais pas tellement envie de le faire parce qu'on est aérien, on voit pas grand-chose. Et donc, j'ai proposé de faire un film qui soit moitié aérien, moitié film sous-marin. Et c'est un film qu'on a présenté à Rio. Nous, on a fait la première et qui est un bon film sur l'état de la planète et sur une réflexion sur d'abord d'où on vient, parce qu'il faut savoir qu'on sort tous de la mer, que la mer a couvert la Terre pendant près de 2 milliards d'années et que on sort tous de ce plancton quoi, de la mer. La première vie est arrivée dans la mer, donc c'est intéressant d'en parler. Voilà d'où on en est aujourd'hui avec la surpêche, les chalutiers, les droits maritimes, les pavillons de complaisance, quoi, tout ça mélangé. Et c'était bien à Rio parce que Il y a 20 ans, à Rio, ils avaient s'étaient engagés de faire 10% de la mer qui aurait été des aires marines protégées. Et en fin de compte, on n'en a fait qu'un pour cent. Parce qu'on se demande à quoi servent ces grandes réunions si on ne tient pas ses promesses. C'est quelque part quelque chose de malsain là-dedans. Et qu'on n'est pas capable de le dire, que ça ne sert à rien. Et là, je pense que Rio, ce qui vient de se passer, la vérité a tellement éclaté qu'aujourd'hui, on sait que ça ne sert à rien. Et je suis rentré dans l'avion avec des négociateurs de gouvernement qui le reconnaissaient. Donc c'est déjà une avancée. Donc Rio n'a pas déjà été complètement négatif. On s'aperçoit que ça ne sert à rien, ce genre de réunion. Et il faudra trouver d'autres solutions.
Vous pensez qu'initiative va jaillir comme ça par d'autres, par des fondations,
ouais, mais aujourd'hui,
des collectifs quelconques?
J'en sais rien.
On verra bien.
Personne ne sait. Personne ne sait. Je pense que ça viendra d'une espèce de... Je le dis souvent et ça me l'est reproché parce que des gens n'y croient pas du tout, mais moi je pense qu'on change le monde qu'avec des révolutions. Une vraie révolution. Là aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, si vraiment il n'est pas viable, si vraiment on ne peut pas continuer comme ça, moi je le pense, il y a des gens qui ne le pensent pas, qui pensent qu'on peut être 10 milliards, que tout le monde peut avoir des voitures comme nous, non, tout le monde peut manger de la viande comme nous, ce n'est pas possible, c'est impossible. Mais ceux comme moi qui ne le croient pas, ce qui me paraît du bon sens, savent que sa révolution ne sera pas économique, puisque l'économie... C'est l'économie qui dirige le monde, c'est les échanges. C'est ça qui a fait la richesse du monde, le point de croissance qui nous permet de vivre bien, d'avoir des trucs formidables comme les hôpitaux gratuits, l'éducation, c'est la croissance. Et aujourd'hui, la croissance n'est pas bonne pour l'environnement. Donc ce n'est pas de la décroissance, mais c'est une croissance autrement. Et on est en train d'épuiser les ressources, c'est évident. Ça, c'est une chose. Et puis surtout, on est en train de changer notre climat. Ça ne sera pas une révolution scientifique. Même si les scientifiques vont inventer des choses, bien sûr, ils vont nous aider. Qui aura des avancées, mais on ne fait pratiquement rien. Ce n'est pas parce qu'on met des panneaux solaires sur son toit, qu'on met une pompe à chaleur, ou qu'on trie ses déchets, ou qu'on étend son robinet quand on se lave les dents, qu'on achète bio. C'est bien, mais ça ne suffit pas pour changer le monde. Hier, j'étais avec mon copain José Beauvais, on allait à la bergerie de Rambouillet, parce qu'ils veulent fermer la bergerie de Rambouillet, donc on a été discuté avec la direction, et on était sur la route, dans un embouteillage, vous voyez, une personne par voiture... sur des kilomètres et des kilomètres, ben, tant qu'on fera ça, et je le fais aussi, moi. Une voiture de 2 tonnes pour transporter 80 kilos, ça ne marchera pas. Ça ne sera pas une révolution politique, parce que je n'y crois pas, parce que la politique aujourd'hui, en démocratie, les hommes politiques nous ressemblent, et on a les hommes politiques qu'on mérite. Moi, je pense que ce sera une révolution, je dirais, presque spirituelle, c'est-à-dire pas au sens religieux, pas du tout, mais au sens éthique et moral. Est-ce que l'homme est capable de prendre conscience qu'il peut, dans sa vie quotidienne, dans sa vie, réfléchir, d'avoir un regard sur le monde différent? Et un regard sur le monde, ça veut dire c'est mieux voter, mieux acheter, mieux se comporter, quoi. Et tout ça, ben c'est ça l'écologie. L'écologie, c'est la science de la maison. Et si on veut que notre maison reste agréable, eh bien, soyons d'abord, c'est nous les acteurs, c'est pas les autres.
Une révolution morale, éthique.
Voilà, oui.
De chacun.
C'est naïf et utopique. Mais Victor Hugo a dit que l'utopie était sans doute une vérité prématurée. Voilà.
Yann Arthus-Bertrand, comment vous pensez accompagner cette révolution morale par le travail que vous faites?
Ben d'abord,
par vos photos, par l'image, parce que vous faites des films maintenant, à plusieurs, je veux dire, vous vous êtes entouré des meilleurs caméramans pour, avez-vous dit, là, pour Planète Océan.
Ce que j'ai oublié de dire dans Planète Océan, qui est nouveau, c'est qu'énormément de caméramans sous-marins nous ont donné les images gratuitement, en échange du fait que ce film soit libre de droit, open source, et que libre pour les éducations et trucs. Ça a changé un peu la donne, ça, voilà. Ça. Et ça, c'est un truc qu'on a inventé un peu avec Home et que j'espère bien continuer la même chose. Et mon prochain film que j'attaque au mois d'octobre, qui s'appelle Human, avec un H, H-U-M-A-N, justement, sera financé par une très grosse fondation internationale. C'est aussi un film important. Justement, on parlera beaucoup d'éthique et de morale dans le monde, voilà. Alors comment je peux l'accompagner? D'abord, c'est en me transformant moi-même, en essayant d'être meilleur, et il y a beaucoup de chemin à faire, donc moi je travaille beaucoup là-dessus, sur me transformer, mais en tout cas d'être un homme meilleur, un homme être mieux, tout simplement, ce qui n'est pas facile, et puis à travers son travail, parce que moi j'ai la chance d'avoir un travail formidable, j'ai la chance de recevoir des cadeaux incroyables par les gens que je photographie, par ce que je vois, par ce que les gens me disent. Et je dois être honnête que c'est un vrai plaisir de le rendre, de le renvoyer. Moi, je pense que plus on donne, plus on reçoit. Donc, j'ai envie de donner.
Votre dernière photo, c'était quoi, par exemple?
Ma dernière photo, c'était mon petit-fils, hier, qui faisait de la balançoire. Et c'est aussi important que mes grandes photos de la Terre vue du ciel. Sinon, mon dernier endroit où j'ai été filmé, c'est justement en Corée, où on a été filmé les grands chantiers navals et la pêche industrielle en Corée.
Qu'est-ce qui vous révolte le plus?
De moins en moins de choses me révoltent. J'accepte de plus en plus le mal, quelque part, parce qu'il fait partie de nous, et je le sais. Sans doute le mensonge, l'hypocrisie. Ce qui me révolte, c'est que souvent, les gens qui sont à la tête de notre État, de nos gouvernements, ils ont conscience qu'ils ont été élus par nous, donc pour nous. Et je ne sais pas s'ils nous emmènent du bon côté. Voilà. Ça me révolte, mais il y a un manque de bon sens. Maintenant, le monde est compliqué à diriger. Hein. Aujourd'hui, mes objectifs, mes priorités ne sont pas souvent la priorité de la rue. Donc, l'homme politique, il va aller plutôt vers cette priorité-là. Mais je ne sais pas si je suis très révolté. Non, je suis plus révolté comme tout le monde. Hein. Peut-être que je suis révolté par la mort. Voilà, tout simplement. Ça m'énerve. Quelqu'un me disait hier, en parlant de la mort, il faut vivre comme si on allait mourir demain, mais il faut vivre aussi comme si on allait vivre 1000 ans. C'est bien ça, parce que ça veut dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui a une action dans le monde pendant longtemps, beaucoup plus qu'on croit. C'est pas uniquement l'instant présent, et en même temps, il faut vivre l'instant. Là, c'est de la pluie qu'on entend, là, la radio, comme ça, claque, c'est beau. On a un mois de juillet un peu pourri.
En hiver.
Mais en même temps, j'ai jamais vu la campagne. Moi, j'ai la chance inouïe de vivre dans la forêt de Rambouillet, et tous les matins, je vais courir ou marcher dans la forêt. J'ai jamais trouvé la forêt aussi belle, aussi verte qu'en ce moment. On se croirait en Afrique, ça pousse, c'est magique. Donc, il y a du bien à la pluie aussi.
Bon, voilà. Ça, c'est le bon côté.
On vit dans un monde où la mort, on ne veut pas y penser, on ne veut pas le voir. Oui, alors qu'on devrait en permanence se dire, attendez, je vais y passer moi aussi.
Mais le fait de voyager beaucoup, vous avez rencontré beaucoup de gens. Justement, on a une vision de la mort différente selon les quatre coins du monde quand même.
C'est-à-dire que...
C'est des choses dont les gens parlent facilement.
C'est-à-dire qu'en vie, quand vous avez dans votre vie, c'est une femme africaine, vous avez dans votre vie 15, 16 enfants et qu'un sur trois est mort. Vous avez une vision différente de la mort que moi qui vis dans ce monde protégé.
C'est pas apaisant justement d'être au contact des gens qui ont une autre approche de la mort.
Non, je pense pas.
Ça diminue.
Non, mais moi je suis quelqu'un qui a apprivoisé un petit peu ça. J'ai eu des graves accidents où j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je suis passé à côté. C'est facile, toujours facile de dire ça, mais je suis pas quelqu'un qui ait peur de la mort aujourd'hui, en tout cas maintenant. Et souvent on me dit quel serait ton rêve le plus absolu. Mais je pense que ça serait pouvoir mourir avec le sourire, c'est-à-dire mourir en étant en paix avec moi-même, en étant fait ce que j'avais à faire. C'est drôle parce que j'ai eu l'autre jour une discussion avec un journaliste qui est venu me voir et qui m'a demandé, vous avez des interviews qui, en fin de compte, c'est des gens, ils demandent à tout le monde si vous alliez mourir demain, qu'est-ce que vous feriez. Ça m'a fait réfléchir un petit peu à ça. Et il y a une chose que j'ai dit, mais c'est drôle parce que c'était la première personne à dire, c'est que moi je ne dirais à personne d'abord. Je ne dirais pas aux gens, je vais mourir demain, je vais faire la fête. Non, au contraire, j'essaierais de tout régler mes problèmes, justement, pour pouvoir mourir avec le sourire et l'accepter, ce qui est inacceptable, en fin de compte.
Comme au Moyen-Âge, on se préparait. Pour ceux qui savaient qu'ils allaient mourir, ils réunissaient tous leurs proches, se débarrassaient de tout avec les autres.
Oui.
C'est-à-dire en mourir ensemble. 7 milliards d'autres et d'autres réponses, des milliards de réponses.
Mais la mort n'est pas triste. La mort fait quelque chose qui est au quotidien autour de nous. Et de ne pas accepter que la mort fait partie comme la vie, quoi. C'est quelque chose de naturel. Bien sûr que c'est une souffrance de perdre les gens qu'on aime. Mais sa mort à soi, il faut s'y préparer, je crois. Il faut y penser. C'est très important d'y penser. Ça vous fait peut-être aimer encore plus la vie quand vous y pensez.
Oui,
voilà,
sûr.
Peut-être plus de respect encore, d'être essayé d'être meilleur encore. Hein.
Le plus difficile étant peut-être non pas d'accepter de mourir, mais... d'accepter que ceux qu'on aime meurent.
Oui, oui,
c'est peut-être ça le grand hic.
C'est ce qui nous terrorise le plus tous, bien sûr.
Votre dernier film, Planète Océan, est-il un film militant dans la veine de ceux que vous avez réalisés jusqu'à maintenant?
Bon, Planète Océan, d'abord, c'est mon dernier film. J'ai adoré faire ce film. Alors, je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec Michael Pitiot, qui est un réalisateur qui a beaucoup travaillé sur le bateau Tara, qui est un bateau qui fait le tour du monde avec des scientifiques. Donc, il y avait une base... scientifique que moi je n'avais pas, il m'a beaucoup appris dans ce film et beaucoup donné beaucoup de choses. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est le côté très poétique qu'on a essayé d'amener. Alors vous ne l'avez pas encore vu, vous ne le savez pas, mais on parle...
Il y a quelques extraits sur le site de la Fondation, Internet.
Et sur le teaser, en tout cas, le début du film montre bien un petit peu ce qu'on a voulu dire, tout en restant... c'est difficile de faire des films sur l'écologie en ce moment, sur l'état du monde, sans être catastrophiste et de rester... prenez un peu de recul, parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Les gens, ils ne changent pas par la peur, ils changent par l'envie. Et l'envie, ce n'est pas la peur, je pense en tout cas.
Et la musique du discours,
ouais,
ça peut...
Puis en même temps, moi je suis un activiste, donc mon métier, il est de faire réfléchir. Donc je ne me priverai pas de le faire, et On a en ce moment des problèmes un petit peu avec la chaîne qui nous a demandé de réduire un peu l'activisme du film, et moi je veux pas, quoi. On restera dans un film engagé.
Comme ce que vous avez fait sur l'agriculture, comme vous, voilà. Comme tous les autres. Bon, l'engagement, c'est la vie.
Non, mais je pense que l'engagement rend heureux. Et moi, j'ai envie d'être heureux.
Merci, Yann Arthus Bertrand. Thank you.